Parfait. Pendant que les gens s'installent, je demandais aux personnes qui ont participé de venir s'asseoir avec nous. Il nous manque Audriane. J'allais voir si elle est là. Peut-être que je ne devrais pas aller voir vu que. Parfait. Bien, je vais juste commencer. Bien, merci à tout le monde d'être ici en ce moment et d'avoir passé ces dernières heures avec nous environ. Donc, on a eu la chance de. Bon, le micro, c'est un peu contraignant. On a eu la chance, au cours de la dernière heure, de participer à différentes expériences, autant corporelles, sensorielles, mais aussi imaginaires. Le but de la table ronde, c'est vraiment de créer, de commencer une discussion. C'est pas donc entre les artistes invités, mais aussi vous en tant qu'invités dans le monde des artistes. Donc, une discussion par rapport à. Qu'est-ce que vous avez vécu, tant dans votre corps, par rapport à vos sens, les changements, par rapport à votre imaginaire également. Donc, c'est un peu le format qui va avoir la table ronde d'aujourd'hui. C'est pas très formel, c'est vraiment une discussion. Et dans le fond, la première question va vraiment s'adresser plus au public, pas nécessairement aux artistes, mais un peu, est-ce qu'il y a des gens d'entre vous qui aimeraient partager votre expérience, donc quelque chose qui vous a marqué au courant de la dernière heure pendant les propositions des différents artistes? C'est une question qui est très large, mais dans le fond, juste pour. Oui, est-ce que.
Moi, je suis professeur de psychologie et psychothérapeute, et évidemment, je connais très bien la première catégorie psychiatrique qui a été racontée, mais sur le DSM, j'ai lu. Mais la proposition qui m'a été proposée, ça a été vraiment. Ça m'a bousculé. Parce qu'une fois, lire, écouter et voir un artiste qui amplifie et arrive à trouver un langage pour exprimer poétiquement un état quand même. Très, très, très douloureux pour le psychisme, ça m'a vraiment touché. Je vous parle en tant que psychologue, avant que spectateur. Il y a quelque chose qui m'a fait penser que souvent, dans ce type de contexte-là, l'art peut permettre de faire comprendre, même aux professionnels, non, moi je dis professionnel, quelque chose que les livres savants n'arrivent pas. Et je trouve
qu'est-ce que
ça
vous voulez
touchant.
dire par. Leur arrive à faire comprendre quelque chose que les livres ne savent pas.
C'est l'expérience, la saisir en profondeur l'expérience de qui vit ce type de maladie-là. L'image, non, l'image de cette sorte d'ascenseur émotionnel, non, les montagnes russes. Oui, on le dit, on l'écoute, mais là, avec son regard, sa voix, et je trouve qu'il y a quelque chose vis-à-vis de magique que ce monsieur est arrivé à faire pour quelqu'un qui est professionnel et qui devrait théoriquement, empathiquement, facilement entrer dans ce monde-là, mais ce n'est pas tout le temps facile d'entrer dans ce monde-là. Bravo, bravo à cette proposition, je trouve, qui a vraiment donné une finesse de ressenti à ce type de problématique qui est quand même assez douloureuse.
Je ne sais pas lesquels fonctionnent, mais merci beaucoup. C'est vraiment intéressant cette idée d'ouverture que l'expérience vous a permis de sortir d'un cadre très professionnel, d'un cadre médical, pour entrer dans l'expérience d'une autre personne. Donc, super. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait partager un peu, peut-être par rapport à votre corps, votre sensation, des changements qui vous ont marqué? On a travaillé à travers plusieurs modalités aujourd'hui. On a vécu à travers plusieurs modalités. Vous pouvez aussi participer. Est-ce que ça fonctionne toujours pas? Ah, les batteries sont mortes.
Je peux parler en anglais aussi. Sensation in my body was really nice with the second piece, also because I arrived late, so I couldn't see all of the first one. But yeah, there was a ticklish in my spine, in my, in my vertebrae in between, as if a spider was walking there, but inside. and I still feel it. So I was happy about that.
Out of curiosity, when did that tickling or spider start to happen in your spine? During the piece, do you remember?
Yes, immediately. Yeah, the moment they entered, driven by touch, so I could feel that, and so it was very immediate, and it just kept, like the spider kept walking all along. I had to close my eyes often because the top lights were interrupting a little bit the sensation. And yeah, and also I really enjoy the three-dimensional world of the words, because I also live with words all around me all the time. And it's like the world that I usually live suddenly was real. And it was very, finally.
Est-ce que je devrais traduire en français ou... Non, parfait, ok. Bien, parfait. Thank you for sharing that. I think it's very interesting to see. That's also a question that I had and that struck me during the piece. Un peu cette proximité des sens, mais aussi cette distance à laquelle on témoigne et on est là, qu'on le perçoit dans le contexte de la pièce d'Audriane. Donc, de savoir que les sensations traversent, même si elles ne sont pas proximales, c'est super intéressant. Merci. D'autres, je pense que vous avez.
Bonjour tout le monde. D'abord, félicitations aux artistes, aux techniciens, à tout le monde qui fait partie de ce grand projet. Je m'appelle Kakim Go. Je suis le frère, en fait, de Kagan Go, qui a présenté sa pièce au sujet de la dépression maniaque. Je ne sais pas comment ça traduit en français, en tout cas. Pardon?
Trouble maniaque
dépressif. Comment?
Trouble maniaque dépressif.
Oui, trouble... Exactement. J'aimerais bien juste parler de mon vécu avec la pièce d'Audriane. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je ne me reconnais même pas. Non, c'est existentiel à partir de la pandémie, c'est comme ça, tous les jours. Mais je dois avouer que c'était intéressant parce que je n'ai pas l'habitude de ce qui est bien, c'est qu'on a des guides, d'abord, qui nous guident à travers cette expérience. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous accueille, parce qu'on ne le fait pas assez souvent dans la vie quotidienne. Et donc, pour moi, d'abord, c'était assez intéressant parce qu'on a mis des couvre-œil, qui se ressemblent des soutiens-gorge, qui sont très confortables. Je ne sais pas quelle est la taille, mais ça me convient très bien à mes yeux. Je suis asiatique, donc mes yeux ne sont pas très, très grands non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec la personne qui nous prend par le bras, et après, avec ces textes un peu lyriques, un peu, je ne sais pas, c'est descriptif, au sujet des arbres, au sujet des oiseaux. Je n'ai pas tout capté les premières fois, parce que d'abord, on essaie de s'enfronter vers cette nouvelle sensation, d'abord d'avoir les yeux tout fermés, mais aussi ça a commencé avec des sensations assez intéressantes parce que mon guide m'a fait frotter le bras, quelque part les cheveux, pour, dans un certain sens, reproduire les sensations tactiles d'un arbre ou d'un oiseau. Et ça, c'était intéressant parce qu'on entendait les textes, on entendait les mots, et on avait les sensations en même temps. Et quelque part, il y a un décalage parce qu'on est dans le mot noisseur. Et après ça, on a touché cette sorte de tissu, on a entendu toutes sortes de bruits. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a fait reproduire le même texte une deuxième fois, si je ne me trompe pas. Et c'était un peu comme un écho. Et c'était comme s'il avait un décalage, je retournais dans le passé, mais je n'étais plus la même personne. Et les sensations étaient complètement différentes. Et comme on n'était pas en train de toucher, par exemple, le bras quelque part, c'est comme si on avait perdu quelque chose. On se sentait comme un enfant laissé toute seule. Donc c'est ça, c'était mon vécu. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Aimerais-tu partager, comment t'appelles?
Julia.
Julia, donc on vous présente Julia.
Merci. Oui, mais justement, je me suis dit qu'il fallait que je parle après parce que j'ai pas vécu exactement les mêmes choses. Quand là, d'un coup, je me dis, oh mon Dieu, j'ai même pas pensé que ce qu'on me faisait toucher, c'était pour illustrer les personnages de l'histoire. Moi, j'étais vraiment, j'avais l'impression de toucher une mère, une grand-mère. Enfin, j'ai besoin énormément de contact humain, probablement dans ma vie. On me ramenait à un humain qui me raconte une histoire. Donc, j'ai pas intégré les personnages à l'histoire, mais à la plus grande histoire d'un humain en chair, en os, avec sa chaleur, qui me prend par la main pour me raconter une histoire comme quand on est enfant. Donc, et toute l'histoire, ça m'appartenait. La façon dont j'ai représenté tout le reste de l'histoire. Donc, les contacts, oui, je ne les ai pas vécus comme des textures liées à l'histoire.
Tant qu'à y être, on va y aller avec les trois perspectives. Merci beaucoup. À quoi est-ce que je pensais ? Si, j'aimais bien ce commentaire qu'on n'est plus la même personne. Moi, je n'avais pas capté que c'était trois textes similaires. Fait que j'avais l'impression de progresser dans l'histoire. Et quand tu as dit ça, du coup, j'étais comme, ah, mais pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Et probablement parce que j'absorbais les mots et je changeais un petit peu de réflexion, puis au fur et à mesure. Moi, j'étais très attentive à mon stress à cause de toute cette journée. Et je ne sais pas à quel point c'est une intention, en tout cas, mais je sais que moi, j'étais extrêmement connectée avec vous autres. Marie-Jo et Lauriane, parce que vous m'avez déstressé en fait à travers toute cette expérience, puis je sais que c'est tout à coup pour moi ça devenait aussi un exercice de respiration avec vous autres et je trouvais ça je trouvais ça décalé. Tout à coup j'étais comme arrête, t'es même plus en train d'écouter le texte, mais en même temps ça me tout l'environnement me faisait tellement de bien que c'est comme si j'avais décidé de partir là-dedans, de m'absorber là-dedans.
Tu veux partager, c'est quoi les sensations ou les choses qui te faisaient sentir à l'intérieur de la
tête ? En fait, quand j'ai... je pense que le contact physique, premièrement, quand on m'a attrapé le bras, en fait, j'ai entendu mon cœur battre, qui battait énormément vite. Et je pense que j'ai senti que la fréquence se calmait. Et ensuite, c'est clairement l'histoire où le fait de l'entendre de loin, puis ensuite de l'entendre de proche, ça c'était merveilleux. Puis je sentais l'odeur de, je sentais ton odeur, et je trouvais ça super intéressant. Enfin, c'est chouette en fait. J'avais l'impression qu'on était très 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 proches, et je trouvais ça très je trouvais ça très doux. En fait, il y avait beaucoup d'intimité dans ce que vous avez proposé, mais c'est clairement le thème là. Mais c'était assez déséquilibrant aussi par le manque de sens. Mais je sentais tout mon corps shaker. Je sentais mes jambes. C'est exagéré, mais je pense que ma jambe gauche à un moment elle a vraiment manqué d'équilibre et que la personne qui me guidait, Marie-Jo, tu hoches la tête parce que tu l'as senti, mais c'est incroyable. Non, franchement, mais c'est justement du coup moi c'est le lien au guide, c'est vraiment ce qui me marque pour y répondre. Puis il y a tout le contexte qui m'a marqué, mais pour répondre un peu spécifiquement, je pense que c'est vraiment ce contact humain.
Ok, d'accord. En fait, c'est comme justement le contexte. Moi, je questionnais le fait que vous étiez finalement en représentation, mais est-ce que ça, vous le sentiez parce qu'on était tous là à regarder votre expérience, à vous, en train de vivre ça, donc on était vraiment les voyeurs de votre expérience. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti dans cette intimité dont tu parles, qui est vraiment, vraiment conçue pour être dans une grande intimité, mais finalement, vous étiez regardée, là. Fait que, donc, l'intimité était aussi en même temps un peu...
Je vais répondre parce que c'est quelque chose qui, de suite, m'a travaillé. Comme je suis comédienne et j'ai déjà fait des exercices comme ça, je ne voulais surtout pas que ça prenne le pas, surtout pas empiéter sur l'expérience. Je me suis dit, non, je suis comme un spectateur qui ne verrait pas, qui doit vivre cette expérience. Et je ne voulais pas créer, enfin, comme on fait avec le moins de petites choses qui déclenchent, on va aller explorer. Je me suis comme interdit ça, mais sans me censurer dans mon vécu. Je ne sais pas si c'est clair. Donc oui, j'en avais conscience, mais j'ai vraiment essayé d'être dans une sorte de neutralité non figée, mais pour ne pas, pour pas interférer avec l'expérience. Oui.
Donc, Joy a oublié.
Je suis plus proche, donc je m'en foutais complètement. Excusez-moi, mais non, j'avais besoin de partir quelque part en voyage, donc c'est moins cher que l'STM. Donc.
Mais mais peut-être c'est un peu intéressant, mais aussi moi plutôt aujourd'hui je l'ai vécu et c'est, je pense que qu'est-ce qu'on parle ici, c'est vraiment des gros changements qui arrivent dans notre corps par rapport quand on coupe quelque chose à lequel on est souvent ancré dans le visuel habituellement. Mais clairement, il y a une autre bulle qui se crée autour et tout ce qui est proche paraît énorme. Puis, fait que je pense que c'est un peu ce que que tu partageais dans le sens de la connexion, le toucher, la voix, le murmure. Donc, tout ce qui est la sensation entre le petit, parce que moi, j'étais assez au bout tantôt, mais le fait d'entendre Marc-André parler doucement, de loin, mais tantôt, j'avais de l'expérience de « Ah, mon Dieu, c'était tellement fort! » La proximité, la distance. Donc, je ne sais pas si tu veux parler un peu de ce travail-là.
Volontiers. Bien, déjà, merci beaucoup pour la générosité de votre participation puis de vos impressions. Nous, c'est vraiment une exploration qu'on a fait cette semaine. On a comme créé cette scène-là au courant de la semaine. On voulait vraiment voir... L'idée, c'était de s'inspirer des technologies qui étaient présentes pour concevoir, développer quelque chose. Donc, nous, on s'est questionné, est-ce que la vibration de la technologie vibrotactile amenée par David Beaubier dans le processus, est-ce que ça pouvait aussi transmettre du mouvement, transmettre des sons, transmettre des émotions? Mais on c'est sûr qu'on est habitué de travailler dans le corps, dans le mouvement. Donc, on a répété 3 fois le même texte, mais dans des interactions différentes, si on veut. La première fois, c'était vraiment de manière quelqu'un qui nous décrit. Bien, vous ne l'avez pas tous vécu dans le même ordre, mais la description, ensuite, il y avait... on entendait la description quand même de près aussi, puis il y avait... ce contact physique en même temps. Et puis, là, au final, il y avait d'être devant un tableau, devant une œuvre, devant le dessin. Il y avait quelqu'un qui écrivait et le mouvement était comme retransmis dans l'objet du tableau avec des très beaux sons aussi. Mais il y a, tu sais, dans votre vécu, dans votre ressenti, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Justement, nous, on commence, donc ça nous aide vraiment de savoir qu'est-ce qui vous a touché, comment vous l'avez vécu. Puis on souhaite aussi laisser la place, un peu comme vous l'avez nommé, Julia, tu sais, pour les gens de se faire leur propre histoire puis leur propre expérience là-dedans aussi, puis de pas arriver avec une proposition trop rigide où c'est comme ça qu'il faut le vivre. Donc ça aussi, ça, on essaie de trouver cet espace-là pour permettre à chacun de partir dans son voyage sensoriel, émotionnel. Merci beaucoup pour vos retours.
Dans le fond, j'en profiterai aussi pour peut-être ouvrir la parole aux autres artistes aussi, si jamais vous avez quelque chose que vous aimeriez partager par rapport à votre processus, par rapport à l'expérience que vous avez personnalisée pour tout le monde ici. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Vous avez une question à poser, oui.
Je vais peut-être me permettre une question à Audrey. Moi, j'étais juste spectatrice, je n'ai pas vécu l'expérience. En tout cas, quelqu'un dans le public a parlé qu'on était voyeur. J'ai pas du tout vécu ça comme ça parce que je l'ai réfléchi dans un espace théâtral, dans un espace de représentation, ce que vous aviez proposé. Je trouvais que c'était extraordinaire parce que ça questionnait qu'est-ce que le mouvement, puis qu'est-ce que l'image en fait qu'on crée sur scène. Alors VS caméra. Et je trouvais qu'en fait on rentrait au cœur de ce questionnement parce que nous en tant que public on prenait aussi le temps parce qu'on essayait de rentrer dans chaque détail de mouvement parce que tout était un petit peu décortiqué presque mais de manière extrêmement poétique, donc c'était comme un tableau puis qui se transformait petit à petit, voilà. Donc ma question c'était dans ce processus de création, comment vous avez approché l'œil du spectateur ? Ou est-ce que vous avez juste pensé comme un spectateur immiscé dans le processus de création ? Voilà.
Attends, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Comment est-ce qu'on a réfléchi dans le processus aux gens qui allaient observer la scène ? Oui, en fait, oui.
Est-ce que vous avez pensé ce processus en tant qu'immersion ou aussi destiné à un public qui regarde? Voilà.
Ouais. Bonne question. Oui, en fait, on ne pense pas à la personne qui regarde. Non, même que nous, au départ, avec l'équipe, parce que là, ça a l'air que je travaille toute seule, mais j'ai une équipe extraordinaire. Puis on travaille vraiment en création collective, alors tout le monde participe au développement. Mais l'objectif au départ, c'était vraiment de créer une œuvre pour les personnes non-voyantes, dans l'idée que ce public-là ne manquerait rien de l'expérience. Parce que souvent, si on regarde un spectacle, on va manquer des petits éléments. Puis on sait tout de suite, c'est comme devenu un consensus assez rapidement dans l'équipe. On s'est dit, s'il y a des gens qui regardent, là, l'expérience n'est pas comme égale, tu sais, dans le sens qu'il y a des gens qui voient des choses que le public non-voyant ne peut pas voir. Fait qu'on n'a pas eu de... On s'est pas trop soucié de ça. C'est sûr qu'on vit dans un monde visuel. Donc, maintenant, pour notre matériel de marketing, on essaie de penser à l'esthétique des choses qu'on utilise, mais c'est intéressant, c'est comme une première expérience pour nous. Il y a des gens qui observent, alors c'est intéressant d'avoir vos retours.
Je sais qu'il y a un commentaire en ligne. Je peux le lire d'ici, sûrement. On a-tu accès au... Tu peux le redire parce que je n'ai pas de... Parfait. Est-ce que j'ai accès au mieux? OK. Donc, Jean-François performance made me an impact for providing the 3D visual. I feel like I am participating in the 3D environment when watching his performance. Est-ce que tu veux?
Je suis content. En plus, si jamais la personne l'a vécu en plus en 2D, à partir d'un dispositif qui capte en 2D et réussit à voir le 3D, mais ça, je suis content, en fait. Je vais parler du 3D, justement. Peter, comme je l'ai dit, m'avait parlé au début quand il commençait à mettre sur pied dramaturgie alternative, puis il m'avait demandé s'il y avait quelque chose que je voulais explorer, puis j'avais dit, parce que je travaille sur un film aussi sur la synesthésie en ce moment, qui s'appelle aussi Le transport des sens, et je me disais, pour que le film soit complet, j'aimerais ça qu'il y ait comme une installation de réalité virtuelle qui l'accompagne dans les festivals, par exemple. Et j'ai dit, c'est là-dessus que je pourrais travailler avec Dramaturgie Alternative, avec Peter. Puis finalement, au cours des... Après le premier laboratoire, parce que c'est notre troisième laboratoire, j'ai fait comme non. Ça ne peut pas être de la réalité virtuelle parce que même si c'est 3D, ce n'est pas vraiment 3D. Pour moi, l'expérience n'est pas complète, surtout à partir du moment où ma propre synesthésie et d'autres types de synesthésie impliquent le rapport humain. C'est comme moi, la synesthésie miroir, entre autres, il faut qu'il y ait des gens. Donc, pour que le multisensoriel ou mes modalités croisées soient complètes et qu'il y ait vraiment une trois dimensions, ça prenait le public. Et là, les gens m'ont dit, ben, pense d'abord au dôme de la SAT. Puis j'ai fait comme, OK. Puis là, j'étais parti là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, mais non, c'est pas assez 3D encore, le dôme de la SAT, parce que c'est 3D autour. Mais pour qu'on soit vraiment dans le 3D, il faut que le truc soit au milieu. Il faut que moi, je sois au milieu, puis que le 3D projette sur moi la 3D, mais aussi que la 3D soit projetée sur le public, que le public soit dans la 3D. Et donc, ça a été un long processus avant d'arriver à comprendre que pour qu'on vive vraiment la 3D, il fallait être dedans et non la regarder.
Bien, merci d'expliquer ça. Juste pour vous dire, il est déjà 4h30. Si jamais il y a des gens qui doivent quitter, on comprend. Personne n'est offusqué, mais on peut continuer encore quelques minutes. Mais dans le fond, ton commentaire me fait beaucoup penser à des discussions qu'on a eues hier pendant la générale. C'est d'où vient la technologie dans un processus comme ça? Donc, c'est quoi la place de la technologie? Donc, comment est-ce que la technologie vient dans le processus dès le départ, ou comment est-ce qu'elle vient changer aussi l'idée ou le ressenti de la pièce que vous créez, dans un sens, comment est-ce qu'on retransmet des vibrations, comment est-ce qu'on recrée les trois dimensions, comment est-ce qu'on pense à ça, est-ce que c'est quoi la place de la technologie, ou même comment vous l'avez vécu, cette technologie-là, au travers au travers des propositions qu'il y a eu aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui était présent, qui était dérangeant, je dis des mots comme ça, mais c'est vraiment... Je peux commencer par ici.
Je vais essayer en français. Juste la chose, c'est avec la technologie. Je m'essayais dans la chaise qui est voir les sensors, les vibrateurs. Et c'était difficile de sentir. Et je pensais comment est-ce que j'ai senti avec l'autre pièce. Rien, personne pas me toucher, mais j'ai senti beaucoup. Et avec la chaise qui se bouge comme ça, c'est pour une duration très petite. Et j'ai senti comme, comme, ah, non. Et c'est comme l'interruption de la sensation, parce que c'est plus technologique, avec une duration très pas organique. Et ça, c'est pourquoi il m'a dégagé de l'expérience sensible. Et ça a été intéressant pour moi. Et oui, c'est une contradiction. Ça me touche, mais il ne me touche pas. Et ça ne me touche, mais il me touche.
C'est super intéressant, ça, les sensations que l'on se fait faire ressentir versus les sensations qui émergent de l'intérieur, de l'imaginaire, de la curiosité, d'entrer dans une expérience que super intéressant. Exact.
C'est juste rapidement, c'est comme lire un livre, to read a book, it's multisensorial.
Parfait, il y a un commentaire de Kagan que je pourrais, I don't know which one it is. I'll find it. J'arrive pas à le trouver.
Could you read it, Mongo, and then
Et je vais le répéter. But I don't see it. It was it sent just to you?
Yeah, maybe.
Ah, yes. Sorry, I need the microphone there.
So there is a commentary by Kagan, and I'm going to read it. My name is Kagan Go. I collaborated with researcher, multidisciplinary artist Armando Menicacci. I'd like to dedicate this video to my beloved wife, muse, and soulmate, Julia Hoegling. I hope I pronounce it well. I'd like to thank Peter Fabrige and Post Marginum for giving me the opportunity to participate in this dramaturgical workshop. I'd like to thank and acknowledge co-director Scott Swann for his contribution to the opening of the script, which added much-needed humor and levity to a serious subject of mental illness. This is the beginning exploration of a project in development entitled Zen and the Art of Manic Depression, a hybrid theater experimental film project based on essay of the same name. I want to create an insider experience of madness using technology to give the audience intimate insights to an insider's experience of mental illness. For your information, this video was created while I was in the throes of the worst hypomaniac and manic episode I ever experienced since my initial diagnosis in 1993. It was not method acting, but actually experiencing hypomania and mania during the making of this video, and the irony that I was thinking about being diagnosed on Valentine's Day while shooting the video on Valentine's Day itself. Truth is stranger than fiction. Thanks, Kagan.
Parfait, merci beaucoup.
C'est une question ou commentaire à moitié formulé. Je vais essayer de le formuler en cours de route. Mais merci premièrement. C'est vraiment très, très beau de voir la continuation et l'évolution de la première session que j'ai vue jusqu'à là. Puis je me demande un peu non seulement ce que ça vous demande en tant qu'artiste, mais aussi qu'est-ce que ça demande aux spectateurs ou plus généralement au public, à la personne qui l'expérimente. Je pense ici, on est tous curieux et curieuses et ouvertes à cette expérience, mais on n'a peut-être pas l'habitude d'entrer dans un contexte de spectacle avec nos autres sens. Et je me demande à quel point ça peut justement être perturbant ou ça peut apporter des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, je me demande un peu comment est-ce que vous voyez ça, comme qu'est-ce que vous demandez du public ou du participant dans cette expérience et comment est-ce que ça change l'éthique un peu de la performance aussi, quand on apporte la touche ou les expériences immersives ou comme des lumières et des bruits forts ou des vibrations, tout ça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pendant que je me déplace, qui se porte volontaire à donner une impression?
Je vais essayer de formuler ça. Je ne sais pas si c'est une vision terre-à-terre, mais moi, je trouve que l'enjeu, quand on crée une proposition spectaculaire, on s'adresse au sens du monde. Et du coup, dans les propositions qu'on a eues, il y a eu de l'augmentation, de la réduction du travail de sens. Et moi, ce que je trouve très challengeant et mon esprit joueuse a envie de jouer, c'est qu'on a une hyper-habitude de nos propres sens. Et lorsqu'on va voir un spectacle et une proposition, on se retrouve confronté face à cette augmentation, cette réduction, cette modification. Et je trouve, en tant que quand on fait la création, on pense à tout ça et en même temps, c'est comme si on se tout le monde, c'est pas le bon terme, mais on peut expected que les spectatrices ont une connexion intime et personnelle avec leur sens et on s'adresse à leur sens et on s'adresse au nôtre aussi. Comme s'il y avait une certaine base commune qui n'est pas commune à tout le monde, dépendamment évidemment, mais cette espèce de constat que autant face à l'œuvre de JF, d'Audrey Anne, que quand on va au cinéma, on va se plonger dans une augmentation de ces sens-là. Et je trouve que dans le quotidien, manquer d'attention, c'est comme, c'est peut-être pas le bon terme, mais je trouve que ces expériences-là nous rappellent à quel point on peut développer une heure de surattention à un sens versus un autre. J'essaie de retrouver par rapport à ta question. Moi, je trouve que il est là, ce challenge-là. C'est pas forcément en créant une expérience super immersive qu'on se place au-dessus du barème des sens, mais justement, on s'adresse directement à cette espèce de liste de critères, de ressentis qu'on a tous. Et il est trop beau ce petit paradoxe où on est comme « Ah, rajoutons cette boucane, enlevons la vue. » Et en fait, on est face à du monde qui l'expérimente de plein de manières différentes dans son quotidien. Je pense, on a parlé de la vue, mais les odeurs, pour moi, on est en constante attention avec ces sens-là. Et puis c'est là où le spectacle vient faire des focus. Mais en même temps, on s'adresse à du monde qui, je pense, sont très, très au courant de ce qu'elles ressentent. Et on va venir peut-être confronter ou du moins dialoguer entre « bah voilà, je te propose cette espèce de rapport à tes sens. Toi, qu'est-ce que, par rapport à toi, ton propre rapport, comment tu ressens tout ça ?» En tout cas, c'est ça que ça m'évoque.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Joy. Et je crois que ça dépend aussi de quelle thématique. Depuis mon angle, en étant artiste sonore avec la pièce avec Peter et Vic et Joy en moment d'Irak, un des thématiques très présentes, c'était le silence. Et il n'y a pas vraiment non plus une définition objective de quoi que ça veut dire silence et de mettre de la musique ou des objets sonores qui représentent la silence. Est-ce que la silence est interne ou est-ce que c'est une silence qui existe dans une conversation entre deux différentes personnes? Et le silence est souvent un contraste vers quelque chose d'autre. La silence, mais les sons qui... oui, des fois, la définition des différentes personnes sur le silence, c'est l'absence des sons qui viennent des personnes et que le monde naturel est silencieux. Et que ça, c'était un défi aussi de penser à quoi que le silence est à l'interne ou comment les différents cerveaux, les différents esprits fonctionnent, que les voix internes sont des fois très, très présentes et très, très bruyantes. Et... oui, voilà, c'était un peu à la suite comment que les thématiques étaient rapprochées de différentes manières.
Ce que tu disais, Joy, en effet, la vie est immersive. la différence quand on va voir un spectacle ou une œuvre qu'on dit multisensorielle, c'est qu'il y a convergence. Convergence, on essaie de faire converger les différents stimuli vers un seul message, ou en tout cas vers une expérience qui est convergente par rapport à la vie où tout est divergent, où il y a du bruit, comme du noise, comme on dit en anglais, de l'interférence. Les spectacles ou les expériences artistiques multisensorielles, en général, tendent vers la convergence. Donc, ce qu'on demande à notre public, c'est de converger, que l'esprit converge vers ce qu'on appelle le message. Moi, en tout cas, c'est comme ce que je travaille en général. Mais aussi, je travaille dans les deux sens. Des fois, pour pour qu'un truc ait l'air plus convergent, je fais par exprès pour faire diverger tout puis créer du noise, puis qu'à un moment donné, whoop, l'expérience devient comme hyper convergente. Il y a quelque chose, moi comme spectateur, quand le truc devient hyper convergent, de super satisfaisant, mais j'ai besoin d'être aussi carrément déstabilisé par moment.
Peut-être j'entends une autre couche de ta question aussi, Naila. C'est autant que les artistes aimeraient faire vivre des sensations au public, de différentes sensations et des sensations fortes. Des fois, je pense que aussi c'est nécessaire que on enveloppe le public aussi et que on fournit des moyens pour s'échapper. Si on veut, c'est comme on est habitué maintenant d'avoir les trigger warnings comme façon de prévoir les choses, mais aussi c'est important, je pense, que de donner des portes de sortie aussi. Et je pense que c'est ça, la conscience qu'on développe aussi au niveau d'éthique aussi, c'est justement ça. Comment est-ce qu'on peut offrir d'autres manières à exprimer le théâtre et d'inclure d'autres manières d'expérimenter le théâtre, mais en même temps de prendre soin des gens.
Je vois un peu le temps. Est-ce que je peux...
Oui, pardon, sur l'histoire de, merci beaucoup, sur l'histoire de convergence, c'est marrant, donc c'est Joy, voilà, ça m'avait pensé, je me suis dit, il y a quelque chose de magique dans l'art, c'est que je voyais moi la convergence, puis la divergence, et c'est jamais pareil, c'est-à-dire parfois on va me donner plein de paramètres, plein de choses, à la sortie il va rester un point, parfois à partir d'un paramètre, un point, je vais voir un univers immense, parfois c'est deux fois la même œuvre jouée par des personnes différentes, et à la sortie, c'est pas la même chose. Je voyais comme un sablier, c'est-à-dire il y a effectivement plein de choses sensorielles, plein de stimuli qui arrivent. Ça passe par ce petit instant, le moment où je le reçois, et après, des fois, il n'en reste rien, et des fois, ça va rediverger. C'est ça. J'avais cette image aussi. Merci.
Oui, vas-y. Mais dis-moi-le, oui. Donc ça, c'est vrai par rapport au silence. Donc la plupart du temps, c'est traduit par les gens qui ne sont pas habitués avec le silence dans l'environnement. C'est ça? Et qui peuvent reconnaître qu'il y a plus que le silence. Ouais, ben parfait. Ben, on va prendre ça pour comme un peu conclure parce qu'on arrive vraiment à la fin. Mais je trouve ça super intéressant qu'on revienne à la fin sur les sens. À la fois que ça devient comme quelque chose qui est une ouverture, mais quand même un langage qui est quand même très très personnel parce que c'est quelque chose qu'on vit vraiment à l'intérieur de notre corps avant de le cognitiver et de faire du sens avec ça. Donc, je pense que c'est super intéressant de voir l'idée de convergence, comment est-ce qu'on essaie de personnifier, comment est-ce qu'on essaie de traduire, de transmettre, de voyager une expérience à travers quelque chose qui n'est pas nécessairement partagé par tout le monde, mais comment est-ce que la même chose peut vraiment venir dégager d'autres choses entre nous. Donc, voilà, j'ouvrais ça là-dessus. Mais merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Voilà.